Il y a un point extrêmement sensible et sur lequel on est stupéfait, c'est l'exclusion de la participation de la société civile sur ces questions. Les États disent, et ils l'ont dit dans des décisions de COP, donc dans des choses tout à fait officielles, que la participation de la société civile doit être renforcée. On assiste maintenant, alors que sont négociés des points très importants de la mise en œuvre de l'accord de Paris, une exclusion quasi totale de l'ensemble des acteurs de la société civile. Donc là, on est face à un paradoxe extrêmement grave dont les États ne semblent pas prendre vraiment conscience. Et par exemple, moi je suis tout à fait étonné de l'absence de réaction et de co-directrice de l'APA, donc qui est le courant de négociation où se décline concrètement la mise en œuvre de l'accord de Paris, de l'absence de réaction de la présidence marocaine, hein, donc qui est à la présidence de la COP22, mais aussi de l'absence de réaction du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. C'est proprement scandaleux, pas tant pour les personnes qui représentent la société civile et qui préparent depuis 6 mois cette COP, hein, et qui ont fait le déplacement, mais surtout pour tous les mouvements qu'il y a derrière, toutes les populations qu'il y a derrière et qui sont très concrètement exclus de la participation à des négociations qui concernent directement leur avenir. Et là, on peut revenir à la Laudato si, qui est vraiment une lettre encyclique absolument magnifique là-dessus, où il y a un chapitre dédié à ces questions de dialogue et de transparence. Et on peut être très étonné de voir que tant de responsables politiques ont cité la Laudato si, ont salué la sortie, avec une sous-partie explicitement consacrée à ces questions de transparence et de participation, qui dit... Les habitants de la Terre sont vraiment les premières personnes à associer sur toute discussion de politique publique environnementale, hein, parce que ça ne s'arrête pas au climat. Bon, bah là, on constate que dans cette bulle climatique, les populations ne sont pas entendues.
Alors, un des enjeux de cette conférence climat, c'était de concrétiser l'accord de Paris en intégrant les droits humains. C'est en tout cas un appel de plusieurs ONG, aussi du pape François, quand il parle d'écologie intégrale. Est-ce qu'il y a eu des avancées dans ce sens à la COP22 à Marrakech ?
En effet, l'accord de Paris, dans son préambule, mentionne très clairement les obligations internationales relatives aux droits humains. Donc, il y a eu des avancées, mais tout à fait minimes. Dans un courant de négociation concernant le renforcement des capacités, il y a une mention explicite des droits humains, des droits des femmes et des droits des communautés locales. Donc c'est une avancée certes, mais tout à fait minime dans un courant technique assez précis de ces négociations. Et malheureusement, ces grands principes qui sont dans le préambule de l'accord de Paris, tels les droits humains ou la sécurité alimentaire, ne sont quasiment pas ressortis. Hein, donc, on a des avancées mineures en termes de points de négociation techniques, mais au niveau de l'impulsion politique, les droits humains ne sont pas au rendez-vous.
Et quelles pourraient être les pistes concrètement pour intégrer justement la dimension des droits humains à la lutte contre le changement climatique ?
Alors, heureusement, il existe des pistes très concrètes. Là, dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, il y a tout un tas de principes qui sont discutés, et par exemple de la manière dont les États vont rapporter devant la communauté internationale de leur contribution nationale déterminée. Donc ça, ça rentre dans le cadre du cadre de transparence, et il serait assez facile finalement que la COP prenne une décision très simple disant « Lorsque les États, en 2023, rendront compte devant la communauté internationale de leurs efforts dans la lutte contre les changements climatiques », ils devront intégrer la dimension des droits humains dans ce reporting. On a des États qui sont relativement exemplaires. Je pense au Chili, par exemple, où Mme Michelle Bachelet a énormément fait. Par exemple, la contribution nationale déterminée du Chili, non seulement elle se réfère directement aux droits de l'homme, mais en plus, elle s'est construite selon un processus participatif, hein, donc en incluant au maximum, même si c'est compliqué, les populations pour construire cette contribution nationale. On peut mettre plus de fonds et de moyens sur de l'échange de bonnes pratiques autour de ce sujet, droit de l'homme et changement climatique, parce que évidemment, si on ne finance pas des juristes, si on ne finance pas de l'échange de pratiques sur des sujets aussi complexes, il y a peu de chances que les États s'en saisissent vraiment, parfois pas par mauvaise volonté, mais simplement par manque de connaissances et de capacités. Peut-être un dernier élément, on est face quand même depuis de nombreuses années, et en 2015 particulièrement, à un bâillonnage des défenseurs des droits en matière environnementale. 2015 a été l'année la plus meurtrière pour les défenseurs des droits de l'environnement. Donc très concrètement, c'est des gens qui se font assassiner partout dans le monde. Donc plus d'une centaine de personnes l'année dernière. Donc une des manières de faire de faire progresser les droits de l'homme, ce serait déjà que ces gens bénéficient d'une protection réelle et ne soient pas tout simplement assassinés pour le travail qu'ils font.
Quelles sont les populations qui sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique ?
Aujourd'hui, et c'est un des paradoxes, et c'est à la fois un scandale total, d'ailleurs que le pape François pointe régulièrement, les populations les moins responsables, historiquement et actuellement, des émissions de gaz à effet de serre sont les premières à en payer le coût. Donc il y a des grandes catégories qui sont les femmes et les enfants. Il y a aussi les personnes âgées. On a aussi des catégories qui sont liées au lieu de résidence et à la profession. Par exemple, aujourd'hui, les populations les plus touchées dans le monde, ce sont les populations rurales pauvres. Ce qui est terrible là-dedans, c'est que ce sont déjà les populations les plus vulnérables de manière générale. C'est déjà les populations, par exemple, qui ont les taux de malnutrition et de sous-nutrition les plus élevés de la planète. Et donc les changements climatiques ne font que renforcer cette situation de vulnérabilité. Donc de deux manières, déjà parce que ça affecte profondément leur récolte. Et donc, comme beaucoup de ces populations se nourrissent de leur récolte, ça nuit directement à leurs moyens de subsistance. Mais ça affecte aussi toute leur économie, parce que si vous avez un épisode de sécheresse terrible, pour des populations qui n'ont en plus aucune assurance d'aucune sorte, qu'elle soit publique ou privée, c'est très difficile de se remettre après d'un épisode, parce que en fait, souvent, quand vous revendez un peu le surplus, donc ça vous fait un petit peu d'argent de côté, et ça vous permet de compléter la nourriture que vous produisez, puis d'acheter quelques médicaments, peut-être d'envoyer vos enfants à l'école. Et tout ça, c'est grillé, si vous me passez l'expression, par des événements climatiques extrêmes, mais aussi par une augmentation progressive des températures qui vont par exemple faire baisser des rendements qui sont déjà faits pour ces populations.